Deuxième partie. La mémoire de la douleur. Chapitre 8. La mémoire de la douleur. Notre vrai malheur, pourtant, n'est pas ce que les ans nous volent, mais ce qu'ils laissent en partant. William Wordsworth. La sirène émit encore quelques hurlements, puis s'arrêta, aussi brusquement qu'elle avait débuté. Écroulée sur l'asphalte, Alice peinait à reprendre ses esprits. Ses oreilles bourdonnaient. Sa vision était trouble, comme si quelqu'un avait tiré un voile devant ses yeux. Encore dans les vapes, elle distingua une ombre au-dessus d'elle.
« Debout !»
Gabriel l'aida à se relever et l'accompagna jusqu'à la voiture. Il l'installa sur le siège passager et retourna ramasser la mallette projetée un peu plus loin sur le trottoir.
« Vite !»
Il mit le contact et démarra en trombe. Un coup de volant à droite, un autre à gauche, et ils avaient rejoint la West Side Highway, l'avenue la plus à l'ouest de la ville qui longeait le fleuve.
« Bordel, on est repéré !»
cria Alice en émergeant des brumes dans lesquelles l'avait plongée la décharge électrique. Blanche comme un linge, elle avait la nausée et des palpitations. Ses jambes flageolaient et un reflux acide lui brûla la poitrine.
« Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»«
L'attaché Case était piégé, vous avez bien vu !» répondit-elle exaspérée. « Quelqu'un a su que nous étions à l'hôtel et a déclenché à distance l'alarme et le coup de jus. »«
Vous virez parano, là !»
J'aurais aimé que vous receviez cette décharge à ma place, Kane. Ça ne sert à rien de fuir si quelqu'un suit tous nos mouvements à la trace.
Mais à qui appartient cette mallette, au juste?
Je n'ai pas pu le savoir.
La voiture filait à vive allure vers le nord. Le soleil éclaboussait l'horizon. Du côté du fleuve, on pouvait voir les ferries et les voiliers qui glissaient sur l'Hudson, les gratte-ciels de Jersey City, les portiques métalliques des anciens embarcadères. Gabriel déboîta pour doubler un van. Lorsqu'il tourna la tête vers Alice, il constata que la jeune femme s'était emparée du couteau qu'elle avait volé dans le café et lacérait les doublures de son blouson en cuir.
« Arrêtez, vous êtes folle !»
Se fiant à son instinct, elle ne prit même pas la peine de lui répondre. Emportée par sa fougue, elle se contorsionna pour ôter ses bottines et, à l'aide du tranchant, fit sauter le premier talon.
« Alice, à quoi vous jouez, bon sang ?»
« Voilà ce que je cherchais !»
répondit-elle en brandissant triomphalement un minuscule boîtier qu'elle venait d'extraire de sa seconde semelle.
« Un micro ?»«
Non, un système GPS miniaturisé. C'est comme cela qu'on nous a localisés. Et je parie que vous avez la même dans l'une de vos pompes ou dans la doublure de votre veste. Quelqu'un nous suit en temps réel, Kane. Il faut qu'on change tous les deux de fringues et de chaussures. Maintenant !»«
D'accord, »
capitula-t-il. Le regard inquiet. Alice ouvrit la vitre et balança le mouchard par la fenêtre avant de s'emparer de l'attaché Case. C'était une mallette rigide, en cuir lisse, à double serrure à code. Intentionnellement ou non, l'électrification de la poignée était à présent désactivée. Elle essaya de l'ouvrir, mais se retrouva bloquée par le système de protection.
Le contraire m'aurait étonné,
pesta Gabriel.
On trouvera plus tard un moyen de casser les serrures. En attendant, trouvez-nous un endroit discret pour acheter de nouvelles frusques. »
Les paupières lourdes, Alice se massa les tempes. La migraine revenait. Ses yeux la brûlaient. Elle fouilla dans la boîte à gants pour s'emparer d'une vieille paire de lunettes de soleil qu'elle avait repérée un peu plus tôt. Elle chaussa la monture en œil de chat et aux branches pailletées. La diversité architecturale de ce coin de la ville l'hypnotisait et lui donnait le tournis. Au loin, comme un gigantesque livre ouvert posé sur pilotis, elle reconnut la silhouette bleutée de l'hôtel Standard, qui s'élevait au-dessus de la High Line. Les lignes géométriques des constructions modernes de verre et d'aluminium et celles des petits immeubles en briques marron du vieux New York qui macéraient encore dans leur jus s'entrechoquaient de manière chaotique. Au loin, tel un iceberg de nacre, un bâtiment translucide aux formes irrégulières brisait la skyline et éclaboussait le paysage d'une lumière irréelle. Ils vadrouillèrent un moment entre le Meatpacking District et Chelsea jusqu'à dénicher une petite boutique dans la 27e rue qui tenait davantage du surplus américain que de la friperie. Tout en longueur,
l'unique pièce était un joyeux capharnaüm où les tenues militaires coexistaient avec quelques ensembles de créateurs dégriffés.
« Grouillez-vous, Kane !» ordonna Alice en entrant dans le magasin. « On n'est pas là pour faire du shopping, compris ?»
Ils farfouillèrent parmi les vêtements et les chaussures. Rangers, patogas en toile, bombers, sweatshirt polaire, parka de camouflage, ceinturon, keffier. Rapidement, Alice trouva un pull à col roulé noir, un t-shirt ajusté, un jean, une nouvelle paire de bottines et une veste de treillis couleur mastic. Gabriel paraissait plus circonspect.
« Bon, décidez-vous !» le pressa-t-elle. « Tenez, prenez ça et ça !»
dit-elle en lui lançant un pantalon kaki et une chemise en coton délavé.
Bah, « ce n'est pas exactement ma taille, ni vraiment mon style. On n'est pas samedi soir et vous n'allez pas draguer les minettes, Kane !»
répliqua-t-elle en déboutonnant son chemisier pour se déshabiller. Le jazzman compléta sa tenue avec une paire de brodequins et un trois-quarts orné d'un col en mouton. Alice repéra également un sac musette en toile épaisse fermé par deux lanières en cuir et un vieux holster pour porter son Glock de manière plus discrète. Comme il n'y avait pas de cabine d'essayage, ils se changèrent à quelques mètres à peine l'un de l'autre. Gabriel ne put s'empêcher de jeter un regard oblique vers Alice.
« N'en profitez pas pour vous rincer l'œil, sale pervers !»
le réprima-t-elle en couvrant son ventre avec son pull en laine. La jeune femme ayant surjoué le badinage, Gabriel afficha une mine contrite et se retourna comme pris en faute. Une vision venait pourtant de le glacer. En regardant le corps d'Alice, il avait entreaperçu une cicatrice impressionnante qui semblait partir du pubis pour remonter jusqu'au nombril.
« Je vous fais le tout pour 170 $, annonça le propriétaire des lieux, un colosse chauve et trapu à la barbe démesurée façon ZZ Top.
Pendant que Gabriel finissait de mettre ses chaussures, Alice sortit dans la rue et jeta dans un conteneur l'intégralité de leurs vêtements. Elle ne garda qu'un bout d'étoffe de son chemisier taché de sang.
« Un indice qui pourrait se révéler précieux », pensa-t-elle en le glissant dans son sac militaire.
Elle avisa une supérette de l'autre côté du trottoir. Elle traversa la chaussée et entra dans le libre-service. Elle trouva des lingettes de toilette pour se débarbouiller, de l'ibuprofène pour son mal de tête et une petite bouteille d'eau minérale. Alors qu'elle se rapprochait de la caisse, une idée traversa son esprit. Elle revint sur ses pas, parcourut les rayons et finit par dénicher un petit espace consacré à la téléphonie. Elle examina les différents produits d'un opérateur téléphonique qui proposait des modèles sans abonnement. Elle choisit l'appareil le plus basique contenu dans un pack à $14,99 et acheta également une carte prépayée de 120 minutes de conversation, utilisable dans les 90 jours. Lorsqu'elle ressortit avec ses emplettes, elle fut surprise par un coup de vent. Malgré le soleil éclatant, des bourrasques violentes balayaient la rue, faisant s'envoler les feuilles mortes et charriant des nuages de poussière. Elle porta sa main au visage pour se protéger. Accoudée contre le capot de la voiture, Gabriel l'observait.
« Vous attendez quelqu'un ?» le taquina-t-elle.
Il agita l'une de ses anciennes chaussures devant son visage.
« En tout cas, vous aviez raison. Il y avait aussi une puce dans ma godasse. »
Comme un basketteur, il projeta la converse dans une poubelle publique. Elle ricocha et tomba dans le conteneur.
« Panier à 3 points !»
pérora-t-il.
« Ça y est, vous avez fini vos enfantillages? On peut y aller ?»
Un peu vexé, il remonta le col de sa veste et haussa les épaules comme un gamin qui venait de se faire engueuler. Alice s'installa au volant et posa le sac en craft de la supérette ainsi que sa besace en toile sur le siège arrière, à côté de l'attaché-caisse.
« Il faut qu'on trouve un moyen d'ouvrir cette mallette. »«
Ça, j'en fais mon affaire », assura Gabriel en bouclant sa ceinture.
Pour mettre le plus de distance possible entre eux et leurs vêtements équipés de mouchards, ils roulèrent plusieurs kilomètres vers le nord, traversant Hell's Kitchen jusqu'à la 48e rue. Ils s'arrêtèrent dans une impasse qui donnait sur un jardin communautaire dans lequel un groupe d'enfants cueillait des potirons et des citrouilles sous l'œil de leur maîtresse d'école. Le quartier était calme, pas de touristes ni d'agitation, à tel point qu'il était difficile de croire qu'ils se trouvaient à New York. Ils se garèrent sous le feuillage jauni d'un érable. Filtrés par les branchages,
Les rayons de soleil orangé renforçaient cette impression de tranquillité.
« C'est quoi votre idée pour la mallette ?»
demanda Alice en serrant le frein à main. « On va faire sauter les deux serrures avec le couteau que vous avez volé. Ça n'a pas l'air très solide. »«
Vous êtes un grand rêveur, vous, »
soupira-t-elle.
« Vous avez une meilleure idée, peut-être ?»«
Non, mais la vôtre ne marchera jamais. »«
C'est ce qu'on va voir, »
dit-il d'un air de défi en se retournant pour attraper l'attaché case sur le siège arrière. Elle lui donna son couteau et regarda, en spectatrice dubitative, ses tentatives pour insérer la lame entre les mâchoires de la valise. Toutes furent vaines. Au bout d'un moment, Gabriel perdit patience, s'énerva et voulut passer en force. Mais le couteau ripa et lui écorcha légèrement la paume de la main.
« Aïe ! Bon sang, concentrez-vous un peu !»
s'agaça Alice. Gabriel capitula. Il était redevenu plus grave. Visiblement, quelque chose le perturbait.
« C'est quoi votre problème ? » l'attaqua-t-elle.
« C'est vous. »«
Moi ? » ?»«
Tout à l'heure, dans la friperie, j'ai vu la cicatrice sur votre ventre. Qu'est-ce qui vous est arrivé, bon sang ?»
Le visage d'Alice s'assombrit soudain. Elle ouvrit la bouche pour riposter, mais, gagnée par une profonde lassitude, elle détourna la tête et se frotta les paupières en soupirant. Ce type n'allait lui causer que des problèmes. Elle l'avait deviné dès la première seconde. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, sa lèvre tremblait. La douleur se réveillait. Les souvenirs étaient là, à vif.
« Qui vous a fait ça, Alice ?» insista-t-il. Gabriel sentit qu'il avait pénétré en territoire miné. Il justifia sa curiosité.
« Comment voulez-vous que l'on se sorte de ce pétrin si on ne se fait pas un peu confiance ?»
Alice prit une gorgée d'eau minérale. Le refus de se confronter au passé s'estompa.
« Tout a débuté en novembre 2010, » commença-t-elle.
Par le meurtre d'une jeune institutrice qui s'appelait Clara Mathurin.